autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, pour nous interroger sur l'eau dans l'univers. Pourquoi, contrairement à ce que l'on pensait, on en détecte partout où on la cherche, ou presque. Sur Terre, bien sûr, sous sa forme liquide la plus précieuse, indispensable à la vie, mais également dans tout notre système solaire, sous forme solide ou gazeuse, cachée sous les glaces des lunes de Jupiter ou de Saturne, l'eau aurait abondamment coulé sur Mars. Et on en trouve jusque dans les milieux interstellaires, à la surface des étoiles, comme dans les exoplanètes des galaxies les plus lointaines. Si l'eau est universelle, sa présence est-elle la signature de la vie ? Pourrait-on imaginer de la vie sans eau et de l'eau sans la vie ? Autant de questions sidérales et sidérantes creusées par notre invité, Johan Kicken, spécialiste en planétologie et médiateur scientifique à Universcience, dans un ouvrage très complet, superbement illustré, « L'eau dans l'univers », paru aux éditions du CNRS, un panorama de la recherche qui est aussi un fabuleux voyage dans l'espace et dans le temps, à la lumière des découvertes les plus stupéfiantes et des interrogations les plus vertigineuses sur la vie, ici comme ailleurs dans le cosmos. Autour de la question jusqu'où nous entraînera l'eau dans l'univers, bienvenue.
Pourquoi on suit l'eau? Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est vraiment essentiel? Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et où est-ce qu'on trouve de l'eau de nos jours, alors qu'avant on pensait que l'eau était que jusqu'à Mars? Maintenant on trouve beaucoup plus loin. Comment on peut détecter l'eau à l'extérieur du système solaire? Alors c'est toujours un truc
énorme.
Énorme. Quand on fait des recherches, que ce soit de la vie ou l'habitabilité, c'est toujours « follow the water ».
Follow the water, suivons l'eau, comme nous le rappelait l'astrophysicienne Athéna Kousténis ici même, en avril dernier, au moment du lancement de la mission d'exploration JUICE vers les lunes glacées de Jupiter. Bonjour Johan Kicken.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour faire le point, donc précisément sur l'eau dans l'univers. C'est le titre de votre ouvrage, paru aux éditions du CNRS. Je rappelle que vous êtes spécialiste en planétologie, Johan Kicken, et médiateur au sein d'Univers Science. Alors, follow the water, nous disons disait Athéna Kousténis, parce qu'aujourd'hui, finalement, depuis une vingtaine d'années, on ne fait que la suivre, on en cherche partout et on en a détecté partout ou presque de l'eau dans l'univers, Johan Kicken.
Oui, c'est vrai, follow the water, c'est un des credos de la NASA qui peut justifier la mise en place de crédits importants. Donc de l'eau, effectivement, on en trouve partout dans l'univers. Bon, sur Terre, est-ce besoin d'y revenir ? C'est une évidence. Comme vous l'avez si bien dit, on trouve de l'eau également dans des lieux improbables, à la surface du Soleil. On trouve également de l'eau tout près du Soleil. Je pense par exemple à la planète Mercure, hein, qui pourrait s'attendre à avoir de l'eau sur une planète dont la face arrosée par les rayons du Soleil peut monter jusqu'à 400 degrés. Mais maintenant, on sait qu'au niveau des pôles, la planète Mercure a vraisemblablement conservé de la glace d'eau. Incroyable.
Incroyable, et c'est vraiment une surprise parce qu'on pensait jusque-là, un peu naïvement, que finalement, là où il y avait de l'eau, on allait trouver de la vie. Or, c'est pas du tout cette équation-là que l'on peut suivre. Et pourquoi ? Parce que l'eau que l'on trouve partout dans l'univers, elle n'est pas exactement sous la forme de l'eau liquide
qui
a fait émerger la vie, c'est
ça ? Vous avez raison. Pour avoir de l'eau liquide, l'existence, la stabilité de l'eau liquide, il faut avoir des conditions de pression et de température bien définies. Par exemple, en dessous d'une pression de 6 millibars, l'eau ne peut demeurer liquide. On la trouve uniquement sous forme de glace ou sous forme de vapeur d'eau. Donc pour trouver ces 6 millibars, ça peut être à la surface d'une planète qui possède une atmosphère non négligeable, comme la Terre. La planète Mars, par exemple, a une pression en surface de 6 millibars. Donc, dans certaines conditions, peut-être au fond de certaines vallées, quand il fait suffisamment chaud, on peut avoir de manière extrêmement temporaire de l'eau liquide. Ce n'est pas impossible.
Sur Mars, et la quête continue, on y reviendra, parce que Mars est vraiment un cas à part, jumelle de la Terre. Mais au fond, qu'est-ce qui a changé en une vingtaine d'années? Parce que je précise que votre ouvrage, L'eau dans l'univers, est quand même unique en son genre en français. Il y a eu un ouvrage il y a plus de 20 ans, écrit d'ailleurs en collaboration avec Athéna Koustenis par Thérèse Ancrenas. Mais depuis une vingtaine d'années, tout a changé, parce qu'à l'époque, c'était à la recherche de l'eau dans l'univers. Et aujourd'hui, sous ses formes gazeuses, solides, on en a trouvé partout. Les instruments de détection ont permis ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
À l'époque, donc le livre de Thérèse Ancrenas, c'était 2004. C'est d'ailleurs la lecture de ce livre qui m'a donné l'envie d'actualiser nos connaissances pour le grand public et d'entamer la rédaction de ce livre.
Il s'appelait « À la recherche de l'eau dans l'univers ».
Oui, oui, « À la recherche de l'eau dans l'univers ». C'est « L'eau dans l'univers ». Donc, on avait déjà, à l'époque, énormément de techniques. C'est simplement que de nouvelles missions spatiales, par exemple vers la planète Mars, ont permis d'approfondir notre connaissance de l'eau. On a eu des progrès théoriques, des progrès pratiques, également effectivement des progrès dans les instruments qui permettent de détecter l'eau maintenant, comme par exemple une eau qui a été détectée dans un quasar, une source d'énergie extrêmement intense, sans commune mesure à ce qu'on trouve dans notre Voie lactée par exemple. Donc ce quasar, situé à des milliards d'années-lumière, eh bien, on a détecté dans ce quasar de l'eau en émission, de la vapeur d'eau. Et en gros, si on condensait cette vapeur d'eau sur Terre, on se retrouvait avec des centaines de milliers, de milliards de fois, toute l'eau contenue dans nos océans.
Donc, ce qui est quand même assez surprenant, et ce à quoi il faut faire un peu attention, c'est qu'aujourd'hui, quand on entend, vous parlez de la NASA, on a découvert de l'eau sur Mars, on a découvert de l'eau, ben, finalement, il y en a partout de l'eau. Donc, découvrir de l'eau ne veut pas dire découvrir la vie.
Absolument. Sur Terre, par exemple, vous pouvez très bien avoir de la vie sans lumière, dans les grottes ou au fond des océans, près des dorsales océaniques. Vous pouvez également avoir de la vie sans oxygène. Pensons que sur Terre, où la vie est apparue vraisemblablement il y a 3,8 milliards d'années, l'oxygène n'a pu se développer en abondance dans notre atmosphère qu'il y a 2 milliards d'années. Ça fait une période de presque 2 milliards d'années où il y a eu de la vie sur Terre, mais où il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Donc, de la vie sans oxygène, c'est possible. De la vie sans lumière, c'est possible. Par contre, en point où on en est dans notre connaissance, de la vie sans eau,
c'est pas possible.
Ce n'est pas possible, au moins sur Terre.
Voilà pourquoi s'intéresser à l'eau, chercher l'eau, pourquoi c'est l'alpha et l'oméga des astronomes, des astrophysiciens et surtout des astrobiologistes. Mais autour de la question jusqu'où nous entraînera l'eau avec vous dans l'univers, Johan Kicken, commençons par le commencement avec une question d'une de nos fidèles auditrices à Madagascar, c'est Aïna Rakoto qui vous demande à quel moment dans l'histoire de l'univers l'eau est apparue, comment elle a été créée l'eau. Est-ce qu'on peut répondre à cette question?
Oui, alors si on imagine que l'univers s'est formé il y a presque 14 milliards d'années. Au départ, les modèles théoriques et d'ailleurs les observations, on peut les interpréter en ce sens. À cette époque-là, il n'y avait que des atomes et des noyaux d'atomes extrêmement simples. L'hydrogène, l'hélium, certaines formes d'hydrogène qui s'appellent le deutérium, le tritium, etc. En tout cas, il n'y avait que des noyaux simples, il n'y avait pas d'oxygène. Or, on le sait depuis, par exemple, les travaux de Gay-Lussac, début du 19e siècle, formule de l'eau, c'est H2O, deux volumes d'hydrogène pour un volume d'oxygène. Autrement dit, la présence d'eau nécessite impérativement l'existence de l'atome d'oxygène. Et cet atome d'oxygène n'était pas présent durant les premières minutes, les premières années qui ont suivi le Big Bang. Il a fallu attendre la formation des premières étoiles, sans doute quelques centaines de milliers d'années plus tard, voire un peu plus, la formation des premières étoiles, qui, en leur cœur, des étoiles massives, donc plus massives que notre Soleil, en leur cœur, elles ont pu former des éléments chimiques plus lourds que l'hydrogène et que l'hélium, le carbone, l'oxygène, ainsi de suite, le silicium, le fer. Donc, dans les tout premiers instants de l'univers, l'eau n'existait pas. Elle n'a pu se former qu'après cette toute première génération d'étoiles, donc quelques centaines de millions d'années après la formation de l'univers.
Cette eau si précieuse, donc, elle a permis, sur Terre en tout cas, l'apparition, l'émergence de la vie, puisque vous l'avez dit, pour le moment, d'après ce qu'on sait, aucune vie n'est possible sans eau. Est-ce que c'est la même eau que celle de nos origines, puisque on le sait, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Nouvelle question pour vous, soulevée par le professeur en droit de l'environnement, Laurent Fombosti. On l'écoute.
C'est une interrogation à partir de la formule de Lavoisier. Dans un système donné, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je voudrais être sûr que les larmes des dinosaures et la sueur de Mbappé sont à peu près la même eau. Ou pour le dire autrement, que dans le cycle de l'eau presque en circuit fermé, qu'à l'intérieur du système Terre, on a sous des disponibilités variables en fonction de l'état dans lequel on la trouve, évidemment, mais qu'on aurait la même quantité d'eau à quelques litres près. Je crois que c'est ce que j'ai cru entendre de la part d'une scientifique. Je voudrais être sûr de ça. Ça m'intéresse beaucoup. Donc des dinosaures à Mbappé ou qui vous voulez d'ailleurs.
Fascinant sur Terre. Est-ce que c'est la même ou est-ce qu'on peut le savoir, ça, si la sueur de Mbappé et l'eau consommée par les dinosaures, c'était la
oui,
même.
Oui, effectivement, je l'avais lu.
Question impossible, finalement.
Ça m'avait fait beaucoup rire. Est-ce que l'eau qu'on boit ne serait-ce que du pipi de dinosaure? Oui, c'est tout à fait possible quand même. L'eau sur Terre, finalement, est dans un système assez fermé. Oh, bien sûr, il y a beaucoup de circulation entre les différents réservoirs. Entre l'eau des océans qui s'évapore, qui va retomber sous forme de précipitations, qui vont passer dans des systèmes aquifères. Puis ça revient, hein, on apprend à l'école primaire le cycle de l'eau.
Le cycle de l'eau, absolument.
Effectivement. Alors, quand on pense à l'eau, à sa formation, on a toutes et tous, je crois, fait l'expérience de la formation de l'eau sur la paillasse du professeur de physique. Ça doit être au collège, hein, il mélange de l'hydrogène, de l'hélium, boum, ça fait une explosion, c'est très exothermique, ça crée beaucoup de chaleur, ça forme de l'eau. Dans l'univers, l'eau ne se forme pas comme ça. En fait, elle se forme, on va dire, allez, grossièrement de deux manières, dans des nuages de gaz très peu denses, dans le milieu interstellaire dilué, toute une série de réactions chimiques où interviennent l'hydrogène et l'oxygène. Hein, donc je ne vais pas vous en faire
Non, mais ça, c'est dans les milieux interstellaires, donc interstellaire, entre les étoiles.
Oui, tout à fait. Et ça peut être important tout ça, parce que lors de la formation des étoiles, en fait, les étoiles se forment à partir de matériaux, à partir du milieu interstellaire, qui a été enrichi par des explosions d'étoiles qui étaient là auparavant. Donc ça peut être un enrichissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en éléments oxygène, carbone, etc., même en eau d'ailleurs. Donc la Terre a bénéficié de cet apport d'eau lors de sa formation.
Comme les autres planètes du système solaire et comme les exoplanètes, puisqu'on ne cesse de découvrir aussi de l'eau, alors sous ses formes, on l'a dit, solide ou gazeuse, mais ailleurs, dans des galaxies les plus lointaines qui soient. Au fond, l'eau est universelle.
L'eau est universelle. Hein, sachez que la molécule d'eau, c'est la troisième molécule la plus abondante dans notre voie lactée, après le dihydrogène et le monoxyde de carbone. Donc c'est une molécule qu'on retrouve partout, y compris dans notre voisinage galactique.
Y compris, alors pas seulement dans notre environnement le plus lointain, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Nouvel éclairage particulier de David Valle. Alors lui, il est romancier, dramaturge, auteur de La vie profonde, parce qu'il est parti en expédition dans les abysses. Écoutons-le.
Alors moi, ce qui me fascine avec l'eau, c'est qu'on la voit beaucoup autour de nous et on oublie qu'elle nous compose. Et le fait que nous soyons des poissons d'eau sèche, que nous ayons 45 litres d'eau salée en nous, d'eau saumâtre, un océan divisé par trois, dirait le biologiste Gilles Boeuf, me fascine assez. Nous sommes des petits aquariums, nous avons de l'eau. Et ça, c'est quelque chose... Voilà, est-ce qu'on est conscient vraiment de cette matière qui nous compose autant que les muscles, les tendons, les os, enfin voilà, tout ça, quoi.
J'imagine que ça vous inspire, même si ce n'est pas votre spécialité, Johan Kicken, mais c'est vrai que nous-mêmes, nous sommes principalement de l'eau, majoritairement
oui,
de l'eau.
À hauteur de 60%, je crois.
C'est ça, c'est ça. Voilà, on est de l'eau.
Encore beaucoup plus pour certains organismes, comme la méduse, je pense, où là, ça doit se monter à 90, 95, voire plus.
Et est-ce qu'on pourrait faire cette métaphore pour le reste de l'univers aussi? Vous disiez que l'eau, elle est partout, cette molécule d'eau, elle est partout. Est-ce que notre univers, c'est de l'eau et autre chose? Là, on va loin quand même.
Là, on va un petit peu loin, hein, dans le sens où 90% de la matière de l'univers, ce sont des noyaux, des atomes d'hydrogène, 10% d'hélium, et le reste, les quelques fractions de pourcents qui restent, hein, c'est le carbone, l'oxygène, etc. Donc, l'eau...
Plus toutes les matières que nous ne connaissons pas encore.
Certainement.
En tout cas, autour de la question jusqu'où nous entraînera l'eau dans l'univers, et puisqu'on vient de dire que nous sommes de l'eau, je propose de l'écouter en musique. C'est une petite surprise pour vous. Avec François and the Atlas Mountain sur RFI, je suis de l'eau.
ciel paumé. Dans tes pieds, toi, tu n'as rien changé. Je prends les yeux salés en la voyant tous se mélanger.
Water, je suis de l'eau. François and the Atlas Mountain sur RFI. C'est pour vous, Johan Kiken.
Merci.
Puisque, comme tous les vivants que nous sommes constitués majoritairement d'eau. L'eau dans l'univers, c'est le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions du CNRS. Un panorama de l'état de la recherche sur ce qui est désormais le gras, l'alpha et l'oméga, la quête de l'eau dans l'univers. Alors pourquoi la cherche-t-on? Pourquoi la détecte-t-on et la trouve-t-on presque partout, sous forme solide, on l'a dit, glacée, ou sous la forme de gaz, de vapeur, jusque dans les planètes et même les galaxies les plus lointaines, mais on l'a dit, pas sous la forme liquide, la plus précieuse, indispensable, indissolublement liée à la vie sur Terre, en tout cas telle que nous la connaissons, autour de la question jusqu'où nous entraînera l'eau dans l'univers. Tout de suite, nouvel éclairage en forme de question de l'astrophysicien François Hammer de l'Observatoire de Paris. Il est responsable scientifique en entre autres, des instruments de spectrographie des plus grands télescopes terrestres installés au Chili et auteur du Voyage de la Terre aux confins de l'univers.
La première chose, quand on pense à l'eau, on pense à la vie. C'est, je dirais, c'est le premier lien. Ça fait penser aussi, évidemment, à la zone d'habitabilité, c'est-à-dire à cette fameuse question qui se pose aussi pour nous. Ça fait penser aux nouvelles zones d'habitabilité, c'est-à-dire ces planètes gelées, qui en fait ne sont pas seulement gelées, mais contiennent énormément d'eau, et cette eau devient liquide grâce à des phénomènes telluriques. Et ce qu'on sait aussi, et qui est fondamental, c'est que l'eau, c'est un élément qui est extrêmement commun dans l'univers. On en trouve, croyez-moi, dans des spectres de quasars. Alors des quasars, je vous explique en deux mots, quasars, c'est un trou noir absolument géant qui annihile la matière en énergie. Qu'on trouve de l'eau dans des endroits aussi exotiques montre que l'eau, en fait, pourquoi l'eau, il y en a partout? Parce que l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant de l'univers. Et parmi les éléments qu'on appelle lourds, l'oxygène est l'élément le plus abondant. Donc l'eau, c'est H2O. Donc par conséquent, oui, il y en a énormément dans l'univers. Et la recherche de l'eau dans l'univers, je pense que ça s'associe à la recherche de la vie dans l'univers. Mais je répète, elle n'est pas suffisante. L'eau est probablement pas suffisant parce qu'il y a d'autres composants essentiels à la formation de la vie. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut trouver d'autres éléments que l'eau pour aller chercher la vie?
C'est toute la question aujourd'hui, au fond, Johan Kiken. L'eau est indispensable à la vie telle qu'on la connaît, mais c'est pas parce qu'on trouve de l'eau ailleurs, voire partout, qu'il y a de la vie ailleurs, voire partout.
Oui, absolument, vous l'avez bien dit.
Mais alors pourquoi est-ce que c'est le Graal tout de même pour tous les astrophysiciens, les astrobiologistes? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, précisément, on cherche et on trouve d'ailleurs de l'eau partout dans l'univers?
Je pense qu'il y a une belle analogie à faire. Quand vous perdez vos clés le soir, qui fait noir autour, mais qui a un lampadaire, où allez-vous d'abord chercher vos clés? Sous le lampadaire, même si vous n'avez aucune preuve qu'elles se trouvent là. Simplement parce que vous y voyez clair. Donc,
C'est-à-dire que puisqu'on sait que la vie sur Terre a émergé, est liée à l'eau indissolublement, justement, pour chercher de la vie ailleurs, on cherche d'abord de l'eau. C'est ça que vous dites?
Oui, tout à fait. Après, vous pouvez avoir d'autres molécules qui pourraient signaler la présence d'une activité biologique, d'autres molécules présentes dans l'atmosphère et qui seraient des conséquences directes de phénomènes de, je sais pas moi, de respiration, par exemple.
Et est-ce que, ça c'est une question aussi de nos auditeurs, toujours à Madagascar, de nos très fidèles auditeurs, Mamie Rakotomiaou et Bao Abraham Rakoto, sur justement, est-ce qu'une forme de vie pourrait apparaître dans une eau, par exemple, non liquide, quand on trouve de l'eau glacée, quand on trouve de la vapeur d'eau, des gaz? Est-ce que c'est un indice ou pas? Voilà, question. Est-ce que l'eau liquide pourrait exister sur une planète sans atmosphère? Autre question. Les questions sont sans fin, mais est-ce qu'on pourrait imaginer ça?
Alors, pour revenir à la toute dernière question, sur une planète sans atmosphère, et donc où la pression atmosphérique est nulle, l'eau liquide ne pourrait pas exister, elle serait sous forme de glace.
Où est-ce qu'on en a trouvé de l'eau liquide ailleurs que sur Terre?
Ailleurs que sur Terre, pour l'instant, nulle part de manière certaine. On peut penser, par exemple, j'imagine le satellite Titan autour de Saturne. Vous pouvez voir la réflexion spéculaire du Soleil sur ce satellite. Oui, un point brillant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'eau? Non. Par moins 180 degrés, l'eau, elle est aussi dure que du granit. Simplement, on pense que sur Titan, il y a des lacs de méthane et d'éthane. Enfin, c'est plus qu'une pensée, c'est une certitude.
C'est
maintenant.
Ça. Ça ne serait pas des lacs d'eau liquide, ce serait des lacs de gaz, des lacs de méthane.
Des lacs de gaz liquide.
Des lacs
méthane
de gaz
et éthane liquide. Mais pas de l'eau.
Et pourtant, on continue d'en chercher absolument partout et on continue d'entendre régulièrement, on a trouvé de l'eau. On a dit que Mars, par exemple, était un cas tout à fait à part. Qu'en est-il de Mars? Parce qu'on subodore qu'il y aurait peut-être encore de l'eau liquide. En tout cas, il y en a eu sur Mars.
A priori, il y en a eu. Il y a beaucoup d'eau sur Mars à l'heure actuelle, un petit peu sous forme de vapeur. Hein, si vous précipitiez toute cette eau à la surface, vous obtiendrez un film d'eau liquide de quelques millièmes de millimètres. Épaisseur, hein, pas plus. Il y a beaucoup de glace sur Mars, au niveau des pôles. Hein, on voit de grandes calottes polaires qui contiennent l'équivalent d'une... Allez, on va dire, si on mettait toute cette eau sur Mars, on pourrait avoir un océan global de quelques mètres d'épaisseur, je crois. Vous avez également de la glace en sous-sol. Hein, on peut trouver comme preuve ce qu'on appelle des éjecta lobés. C'est-à-dire quand vous avez un corps céleste, un astéroïde qui arrive, ou plutôt une météorite qui arrive et qui percute la surface de Mars, à certaines latitudes, vous voyez tout autour du cratère, ça fait un peu comme de la boue solidifiée. On appelle ça un cratère à éjecta lobée, ce qui prouve que, eh bien, à une certaine profondeur, quelques dizaines, quelques centaines de mètres, en fonction de la latitude, il y a de la glace, il y a beaucoup de glace. Donc, effectivement...
Et d'ailleurs, vous répondez peut-être à une question d'un de nos auditeurs, alors lui aussi très fidèle depuis la Guinée, c'est Jacob l'Afronome Tolno, un des gagnants de notre lunette astronomique qui partage d'ailleurs le ciel d'Afrique en Guinée, qui nous demande pourquoi le delta de G0, justement sur Mars, est-il le plus convoité dans la recherche de l'eau?
Et c'est le delta dans lequel s'est posé le rover Perseverance. C'est ça, parce que minéralogiquement, c'est un endroit extrêmement intéressant. On a trouvé des minéraux qui ne peuvent s'être formés qu'en présence d'eau liquide, neutre, même acide peut-être, comme des argiles, par exemple. Quand on a des argiles sur Terre, c'est qu'il y a eu l'action de l'eau liquide sur des roches précédemment là. Donc ce cratère Jezero, en plus, il présente l'avantage de ne pas avoir une latitude trop élevée. C'est toujours plus facile d'envoyer une sonde spatiale sur Mars vers des faibles latitudes près de l'équateur. Donc effectivement, ça a été une des cibles sélectionnées et finalement la cible qui a été choisie pour notre rover Perseverance.
Et ce qui veut dire qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars, c'est pratiquement une certitude, ça aujourd'hui, compliqué à dire ça. Et est-ce que ça veut dire qu'il y aurait pu avoir de la vie sur Mars, planète jumelle de la Terre?
Ah, sur Mars, c'est difficile toujours. Difficile, hein. Quand vous prenez une preuve, elle n'est pas suffisante en elle-même.
Bien sûr.
Sauf que des preuves, il y a tout un faisceau de preuves qui laisse penser qu'effectivement l'eau a coulé en abondance sur Mars il y a plusieurs milliards d'années, alors qu'elle avait encore une atmosphère assez épaisse, sans doute un champ magnétique qui protégeait cette atmosphère. Est-ce que la vie a pu s'y développer? On n'en sait rien. Et lorsque on entend parfois dire dans les médias, surtout même l'agence de communication de la NASA, ouais, parfois elle n'est pas en avare en commentaires sensationnels. Est-ce que ces rovers pourraient trouver de la vie? Est-ce qu'ils sont fabriqués pour voir des fossiles? A priori, non. A priori, non. Ce qu'ils recherchent, c'est les conditions d'habitabilité à l'époque, ça, il y a plusieurs milliards d'années. Est-ce que la surface de la planète était compatible avec la vie telle qu'on la connaît sur Terre? Vous voyez, ça fait une hypothèse de plus. Ce n'est pas impossible, mais pour l'instant, on n'a rien trouvé. Hein, rappelez-vous, dans les années 90, je crois que c'était le président Clinton qui avait dit « ça y est, on a la preuve d'une vie sur Mars, hein, dans une météorite qui était tombée sur Terre, une météorite qui provenait de la planète Mars, après un voyage de plusieurs centaines, voire millions d'années. » On avait trouvé, soi-disant, des petites sphérules, des bactéries fossiles, bon, c'était certainement une contamination terrestre.
C'est ça. Donc, on continue à chercher de l'eau. On en trouve sous la forme notamment glacée, autour de la question pourquoi et surtout comment étudier l'eau dans l'univers. Elle est en abondance sous les glaces des lunes. Vous avez parlé de Saturne, mais aussi sous les glaces des lunes de Jupiter. C'est d'ailleurs le but de la mission JUICE, hein, de l'ESA, qui vient d'être lancée. C'était le 14 avril dernier. Une mission d'exploration qui a un objectif principal, donc explorer l'océan liquide caché sous les couches de glace de Ganymède, comme nous l'expliquait ici même Athéna Kousténis, qu'on a entendu au début de cette émission, l'astrophysicienne qui est à l'origine et en charge de cette mission d'exploration JUICE.
Mais objectif Ganymède, parce que Ganymède, en plus d'être le plus gros satellite du système solaire,
avec une atmosphère,
avec une petite atmosphère ténue qu'on appelle une exosphère, et là donc on a ces indications de cet océan d'eau liquide sous la surface. Par contre, là, dans ce cas-là, on est dans le cadre d'un océan d'eau liquide piégé entre deux très épaisses couches de glace. Donc, on n'est pas sans doute aussi proche de la surface avec cette eau liquide que comme avec Europe ou avec Encelade, qui sont dans une catégorie différente où on pense qu'on peut aller effectivement peut-être un jour accéder à cet océan. On est dans un cadre où il faut vraiment traverser la grosse couche de glace de plusieurs kilomètres qui sépare la surface de cet océan d'eau liquide. Mais rien n'empêche, et encore il faut faire les investigations pour voir à quelle profondeur se trouve cet océan, quelle est son épaisseur. Et là, c'est les instruments, la combinaison, l'association de tous les instruments qu'on a sur JUICE ou une combinaison de certains d'entre eux qui va nous donner des réponses extrêmement précises sur cette question-là.
Sur l'océan caché peut-être sous les couches de glace de Ganymède, on n'aura pas la réponse tout de suite parce qu'il faut déjà que la mission arrive en orbite autour de Ganymède. Il y aura une autre mission du côté d'Europe, mais là c'est très très compliqué d'être en orbite autour d'Europe. Vous en pensez quoi, Johan Kiken? Vous voulez réagir à ce que vient de nous dire Athéna Kousténis? Est-ce que voilà, est-ce que cette eau, on va pouvoir percer un peu de ses secrets, cette eau sous les couches de glace de Ganymède?
Oui, JUICE, donc, qui a été lancé le mois dernier, devrait arriver autour de Jupiter en 2031, se mettre en orbite autour de Jupiter, je crois que c'est 2034, pour une mission d'un an. Il est équipé d'instruments scientifique, un spectromètre imageur dans l'infrarouge, entre autres, hein, qui permet de prendre des photos et également, par spectroscopie, de déterminer la composition chimique de la surface de Ganymède. Il est équipé d'un radar. Grâce à ce radar, on peut percer la couche de glace et voir ce qu'il y a en dessous. On peut aller jusqu'à une dizaine de kilomètres, je crois. On en saura plus sur la profondeur de cet océan. Est-il à 1, 2, 3, 4, 5 kilomètres de profondeur, comme certains le croient, ou au contraire, on n'y aura pas accès simplement parce qu'il est beaucoup plus profond que ça et que la couche de glace au-dessus est bien plus épaisse que ce qu'on avait imaginé. Hein. Certains modèles prédisent que cet océan, on ne le trouverait qu'à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur.
Oui, donc là, le forage va être très, très compliqué, oui, oui. Impossible même. Mais comment est-ce que se fait-il qu'aujourd'hui, on arrive finalement à détecter tout de même de l'eau partout, alors inatteignable, et on arrive même à détecter de l'eau dans des galaxies lointaines, oui, dans des exoplanètes, on essaie de découvrir des exoplanètes hors de notre système solaire, et là aussi on sait, enfin on subodore qu'il y a de l'eau sous une forme ou sous une autre.
Oui, bien par exemple pour les satellites gazeux du système solaire, ce qui donne déjà une bonne information, c'est la mesure de sa densité moyenne, hein. Densité, en gros le rapport de sa masse à son volume. Avec les perturbations induites par les satellites entre eux ou lors du passage d'une sonde spatiale, on peut déterminer assez précisément la masse du satellite. On connaît sa taille, donc son volume. On fait le rapport de la masse sur le volume. Et on obtient une densité qui est, pour ces satellites glacés, assez faible, intermédiaire entre la densité de la glace et la densité de la roche. Donc, un des modèles, le modèle le plus vraisemblable de l'intérieur de ces satellites, c'est que vous avez un cœur, un noyau assez dense, de roches, de métaux, surmontées par une épaisse couche de glace et ensuite une croûte glacée. Comme ça, on arrive à faire la densité, à calculer, à pouvoir établir la structure interne de ces satellites. Vous avez également, dans le cas de Ganymède, la présence d'un champ magnétique intrinsèque. Qui dit champ magnétique, dit mouvement d'un fluide conducteur d'électricité. Ce fluide est très certainement de l'eau salée ou de la glace à haute température salée.
Alors ça, c'est pour les lunes de nos planètes, de notre système solaire. Comment fait-on au-delà, pour ce qui est des exoplanètes ou d'autres systèmes, même si on ne peut pas aller explorer, pour savoir que là aussi, il y a de l'eau. Peut-être pas sous forme liquide, mais là aussi, il y a de l'eau.
On utilise un outil fantastique qui a été développé au 19e siècle, la spectroscopie. Bon, on connaît tous l'expérience de Newton. Newton qui décompose la lumière blanche du soleil en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec un prisme, il fait également l'inverse, hein. Il rassemble toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour donner de la lumière blanche. Vers 1815, un certain Fraunhofer refait l'expérience en y mettant un peu plus les formes, et il s'aperçoit que dans le spectre coloré du soleil, il y a des couleurs qui manquent, des raies noires. Bon, il ne comprend pas leur origine, il se contente de noter leur position. Et l'interprétation sera fournie quelques décennies plus tard par messieurs Benzen et Kirchhoff. Benzen, Beck de son prénom, tout le monde le connaît.
Beck Benzen, oui. N'est-ce pas ? Ça, hein ? Voilà, là c'était voilà, un peu potache votre humour.
N'est-ce
voilà,
pas ?
On continue.
Benzen et Kirchhoff concluent qu'en fait, ces lignes ne font que traduire la présence d'éléments chimiques. Ce sont les empreintes digitales des éléments chimiques. Par exemple, si je vois une raie sombre dans le jaune, j'en déduis la présence de sodium. Si je vois une raie dans le rouge, la présence de fer ionisé 13 fois, pourquoi pas. L'interprétation théorique, cette fois, provient de la mécanique quantique, donc début du XXe siècle. Et depuis, à distance, grâce au progrès des instruments et télescopes de plus en plus grands qui peuvent avoir des images, qui peuvent détecter des objets de plus en plus faibles, on utilise la spectroscopie pour, à distance, déterminer la composition chimique des objets. Alors, ce que je viens de dire s'applique non seulement, bien sûr, aux éléments chimiques purs, mais également à des composés plus complexes comme les molécules, en particulier la molécule d'eau, qui présente un spectre extraordinairement complexe, riche, puisqu'en plus, la mécanique quantique nous dit que cette molécule, elle va vibrer, elle va tourner sur elle-même en suivant des lois très précises. Et ces rotations, ces vibrations vont être associées à des émissions ou à des absorptions de rayonnement à des domaines, dans des domaines de longueur d'onde extrêmement précis. Donc voilà comme ça, voilà comment, à distance, en faisant le spectre d'un objet.
On peut détecter de l'eau presque partout. Est-ce que, parce que cet ouvrage, L'eau dans l'univers, très complet, magnifiquement illustré, en plus avec beaucoup de schémas, c'est quand même une surprise. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Vous avez décidé de nous faire partager toutes ces recherches et toutes ces découvertes. Est-ce que c'est une surprise d'en trouver autant, finalement, partout dans l'univers? Est-ce que c'est une surprise, comment dire, un peu paradoxale? Il y en a partout, mais par contre, l'eau liquide, il n'y en a pas encore pour le moment.
Oui, une surprise paradoxale. En fait, je pense que les astronomes n'ont pas été foncièrement surpris de trouver cette eau. Ils s'y attendaient, hein, comme on l'a vu au début de cette intervention. L'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers. L'oxygène, le troisième. Forcément, de l'eau, il y en a partout.
Il y avait H2O.
Voilà, il y en avait. Après, il faut savoir la détecter. Maintenant, on a les outils pour.
Et est-ce que, par contre, il y a une surprise du côté de la forme? Enfin, on sait bien qu'elle peut être que sous la forme gazeuse ou sous la forme de glace, mais le fait qu'on ce soit si compliqué de trouver de l'eau liquide, est-ce que ça aussi, c'est une surprise ou c'est un peu logique?
C'est un peu logique, je pense. C'est un peu logique.
Autour de la question jusqu'où nous entraînera l'eau dans l'univers et jusqu'où nous entraînera-t-elle sur Terre? Parce que on se demande si on ne va pas subir un peu le sort de Mars. On a un peu de temps, mais enfin, un jour, l'eau disparaîtra peut-être de la Terre.
On a le temps de voir.
On a le temps de voir.
On a le temps de ficher la Terre en l'air bien avant ça.
C'est ça, rappelons-le. Allez, on continue de s'interroger sur l'eau dans l'univers. Juste après avoir écouté votre choix musical, tout à fait de circonstance, inspiré par la passion pour l'astronomie du bassiste du groupe de rock britannique Blur, Alex James, dans ce morceau qui s'intitule Far Out. Vous nous en direz un petit peu plus juste après.
I spy in the night sky, don't I? V-P-I-O-L-R-A, Leda, Callisto, Sinope, Janus, Dione, Portia, so many moons. Quiet in the sky at night, hot in the Milky
Out, morceau très space hein, du groupe britannique Blur. Alors dites-nous pourquoi ce choix musical, Johan Kieken?
Pour son étrangeté, il ressemble vraiment à du Pink Floyd version période Syd Barrett.
Hop, c'est ça, un peu psychédélique. Oui.
Un peu psychédélique et dans cette chanson, bien, on fait référence à des objets du système solaire, par exemple des satellites de Jupiter, Io, Callisto dont on vient de parler, mais également des petits satellites qui sont un peu des patatoïdes, Elara, Sinope, que peu de gens connaissent.
Des patatoïdes, c'est-à-dire avec des formes incroyables, des lunes avec des formes incroyables.
Oui, elles sont suffisamment petites. C'est ça, quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres à tout casser, elles ne sont pas sphériques du tout. Ça fait également référence à des étoiles typiques du ciel d'été. Je pense à deux étoiles du triangle de l'été, Vega, Altaïr. Des étoiles typiques du ciel d'hiver, on a Bételgeuse, Aldébaran, Capella. Également une étoile qui n'est pas visible en France, au moins au sud du Maroc, et même encore mieux au niveau du tropique du Cancer.
Très bien pour nos auditeurs.
Voilà, pour la voir, c'est Hadar. Hadar, l'étoile bêta de la constellation du Centaure, très brillante. Et enfin, l'auteur, cette musique étonnante... fait référence à deux étoiles invisibles à l'œil nu, l'étoile de Barnard, qui est la quatrième étoile la plus proche du Soleil, hein, après les trois étoiles du système triple d'Alpha du Centaure, elle est invisible à l'œil nu, elle n'est qu'à 6 années-lumière de nous, donc 60 000 milliards de kilomètres, c'est la porte à côté bien sûr. Et autre étoile auquel on fait référence, c'est Wolf 359, Wolf 359, qui est également une naine rouge, une étoile mille fois trop faible pour être visible à l'œil nu, malgré sa proximité, de 8 années-lumière. Et on se termine par cette chanson, par le mot sun, sun, sun.
Et voilà le soleil. Et qui est-ce qui l'a composé cette chanson? C'est Alex James, le bassiste du groupe Blur, qui est fan d'astronomie, comme le sont beaucoup nos auditrices et auditeurs. Autour de la question jusqu'où nous entraînera l'eau dans l'univers, l'univers. On l'a compris, on n'est pas vraiment un paradoxe, il y a une complexité près, en découvrant dans votre ouvrage donc, l'eau dans l'univers, Joan Kicken, à la fois que l'eau est omniprésente dans tout l'univers, dans notre système solaire comme au-delà, à la surface des étoiles, comme des exoplanètes des plus lointaines galaxies, mais qu'en revanche, elle est très, très rare, enfin qu'on n'a pas trouvé ailleurs que sur Terre, sous sa forme liquide, la plus précieuse, indispensable à la vie, comme nous l'expliquait ici même l'astronaute Jean-François Clairvoy, qui sait de quoi il parle, on l'écoute.
Elle est rare, très rare. Moi, j'aime bien montrer une photo de l'USGS, c'est un organisme de géophysique américain. Il montre une Terre totalement asséchée, on a retiré toute l'eau souterraine, de surface, et toute l'eau, on la met en une boule. À l'échelle de la Terre, ça fait une boule de 1500 km. Donc par rapport à la Terre qui fait 1300, 13 000 km de diamètre, c'est déjà une boule petite. De cette eau-là, la partie eau douce, c'est une bille de 300 km de diamètre. Mais la très grande majorité de l'eau douce n'est pas du tout accessible à l'humanité. Et donc, sur cette image, on met une petite sphère de moins de 60 km de diamètre. C'est toute l'eau douce accessible à l'humanité. Elle est très rare. Il y a des lunes de Jupiter et de Saturne, qui sont beaucoup plus petites que la Terre et qui ont beaucoup plus d'eau. Par exemple, Europe a un océan de 100 km d'épaisseur sur toute la surface. Il y a 30% d'eau de plus alors qu'elle est 100 fois plus petite que la Terre. L'eau, c'est rare. C'est la chose la plus importante pour le vivant, donc il faut la respecter. Et ça démarre au niveau des sources, des rivières qui se jettent dans les fleuves, qui se jettent dans les océans. Et c'est pour ça que la première chose à préserver dans notre environnement, c'est l'eau et l'océan et les rivières et les lacs et l'eau du robinet.
J'imagine que vous partagez les propos de l'astronaute Jean-François Clairvoy, Joan Kicken.
Oui, d'autant plus qu'il y a une chose qu'on ignore souvent, c'est que la Terre, finalement, est une planète plutôt sèche, aussi paradoxale pardon, que cela paraisse.
C'est-à-dire que nous qui sommes des êtres finalement composés aux deux tiers d'eau, sur une planète qui est une des rares, en tout cas, à avoir de l'eau liquide en surface, on est sur une planète, vous dites, plutôt sèche.
Plutôt sèche, oui. Dans le sens où la masse de l'eau que la Terre contient, que toute la planète Terre contient, c'est même pas 0,1% de la masse de la planète. C'est très faible hein, quand on compare ça par exemple à la quantité d'eau que contient Europe, comme l'a cité l'intervenant, M. Clairvoy.
Europe, lune satellite de Jupiter.
Jupiter, hein, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais ça doit être la moitié à peu près de la masse d'Europe qui est constituée d'eau.
Donc attention à l'eau sur notre Terre, d'autant qu'on le sait, l'eau elle est indispensable à l'émergence, au maintien de la vie, et que si en plus on parle d'eau douce, là vraiment, elle est encore plus précieuse.
Mmh. Oui, oui, il existe bien sûr des méthodes comme la désalinisation de l'eau, mais ça réclame beaucoup d'énergie pour réaliser cette désalinisation.
Est-ce que vous aviez aussi ça en tête en faisant cet ouvrage sur l'eau dans l'univers, Joan Kicken ? Parce que l'eau aujourd'hui sur Terre, elle fait l'objet de beaucoup de débats, on parle de possible guerre de l'eau. Mm-hmm. Est-ce que c'est aussi pour nous dire attention, il y a de l'eau ailleurs, on la cherche, on cherche si justement il n'y aurait pas de la vie ailleurs en cherchant de l'eau, mais en même temps ce n'est pas l'eau ailleurs qui va sauver notre petite Terre et surtout nous les vivants sur Terre.
À vrai dire, je n'avais pas ça en tête en écrivant ce livre. Mais vous avez raison, bien sûr, hein, parce que même si on parle de quantité phénoménale d'eau sur les satellites glacés de Jupiter, des planètes géantes ou même plus loin, l'effort qu'il faudrait entreprendre, l'effort financier technologique pour ramener cette eau ne vaut absolument
c'est
pas
ça.
La peine.
C'est ça.
Bien sûr.
Et à quoi vous vous attendez ? Parce que maintenant, vous avez fait ce bilan, ce point sur l'eau dans l'univers. Qu'est-ce que vous espérez ? Alors, on peut aller dans le domaine de la fiction ou du rêve. Qu'est-ce que vous attendez peut-être des prochaines découvertes, la mission Jude dont on a parlé, d'autres missions autour d'Europe, de toutes ces missions autour des lunes glacées. Qu'est-ce que vous espérez de cette quête de l'eau dans l'univers ?
Plusieurs choses. D'abord, j'attends avec impatience les résultats du James Webb Space Telescope, ça devient dur.
Qui va nous dire quoi, par exemple ?
Ah, bah, qui va faire de la spectrographie des atmosphères de certaines exoplanètes. Je pense par exemple à celle du système TRAPPIST, hein, qui est évoqué dans le livre.
Qui est un système d'exoplanètes très prometteur.
Dont certaines planètes pourraient éventuellement avoir une certaine ressemblance avec la Terre, même si
Il y a déjà le livre à peine sorti, il est déjà dépassé, c'est vraiment une course. Dans ce livre, je vous dis qu'une certaine planète a devrait, heureusement j'avais pris le conditionnel, j'avais pris des pincettes, a certainement une atmosphère épaisse de dioxyde de carbone ou de vapeur d'eau. Bah, les premiers résultats de James Webb montrent que les observations sont plutôt compatibles avec une absence pure et simple d'atmosphère.
Donc voilà, donc vous ne savez pas, et d'ailleurs cet ouvrage c'est étonnant parce que l'eau dans l'univers, à la fois on ne va que de surprise en surprise, mais au fond, alors c'est vraiment un ouvrage de référence, mais il faudrait au fond rajouter constamment d'autres informations parce qu'on ne cesse de découvrir ou de préciser ou de détecter plus précisément l'eau et d'autres composants dans l'univers.
Mais vous avez tout à fait raison, ça a été la principale difficulté au niveau de l'écriture de cet ouvrage, c'est que vous écrivez un chapitre, vous passez à autre chose, vous revenez, ça a changé. Aïe. Donc il faudrait, vous avez raison, l'actualiser en permanence.
Eh bien, vous allez revenir peut-être pour l'actualiser en permanence. Je remercie beaucoup, Joanne Kiken, d'être venue faire le point avec nous, si j'ose dire, sur l'eau dans l'univers. L'eau dans l'univers, c'est donc le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions du CNRS. C'est un sujet qui passionne, je l'ai dit, nos auditrices et auditeurs. Merci à toutes et tous pour vos questions, chers amis. On y reviendra sûrement, car l'eau, on l'a bien compris, c'est bien plus qu'une source. C'est un sujet inépuisable, même si l'eau ne l'est pas toujours. Et puis, c'est la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Vous revenez quand vous voulez. Merci, Joanne Kiken.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Deuxième diffusion tout à l'heure à 23h. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditrices et auditeurs, pour tenter cette fois-ci de nous mettre dans la peau de Néandertal, carrément, avec l'archéologue Ludovic Slimak, iconoclaste, auteur et découvreur du dernier Néandertalien, une bouleversante leçon d'altérité à partager avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Un grand merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre, oui, libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.